9h03 dans le Positive Morning, on est très content de pouvoir vous accompagner en ce dernier jour de mois de mars, dernier jour de la semaine, mais aussi dernier jour du mois de la Bible. Ça fait beaucoup de derniers, et en tout cas jusqu'à 10h, on va passer une matinée spéciale. Donc dans le cadre de ce mois de la Bible, vous l'aurez compris, où la Bible est mise en lumière, nous avons Innocent, un invité très spécial jusqu'à 10h.
En duplex, c'est Eric Denimal, bonjour.
Bonjour.
Bah oui, si on ouvre votre micro, c'est toujours mieux. Bon voilà, vous êtes avec nous, Eric, on est ravis de pouvoir vous accompagner. On vous présente bien sûr d'abord.
Oui, on rappelle que vous êtes journaliste, conférencier et chroniqueur à radio. Et également avec ce bel ouvrage, cet ouvrage principal, diffusé sur l'antenne de Phare FM, La Bible pour les nuls aux éditions First depuis 2004, c'est bien ça?
Oui, c'est la première édition, oui.
Exactement, et puis vous êtes également vulgarisateur. Ça veut dire quoi déjà ce mot, vulgarisation? Tu voulais peut-être dire quelque chose avant?
Ça, on va garder un petit peu pour la suite.
On préfère garder.
Ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Denis, Eric, pardon, on va y arriver. Eric, vous êtes donc avec nous jusqu'à 10h. Alors, vous êtes dans quel coin du monde, Eric?
Je suis à Valence,
Brigitte. La belle ville de Valence.
Ah, vous avez dit Brigitte?
Bah oui, puisque vous m'appelez Denis.
J'étais pas sûr d'avoir entendu. Oui, oui, Brigitte, ça me va bien.
Ça va très très bien se passer à l'heure de 9h. Hein.
Donc à Valence, depuis cette belle ville.
Alors je précise, Valence en France quand même, hein, pas oui. Valence en Espagne. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Je savais même pas qu'il y avait Valence en Espagne, Valence. Je découvre. Merci, merci Eric.
Ça serait plus compliqué la communication.
Alors, voilà, Innocent, il va falloir vérifier votre géographie.
Ah, je suis nul en géographie, donc là ça va pas le faire.
Eh ben, tu sais quoi Innocent, oui. On est nul en plein de choses. Parfois, on est nul en maths, c'est mon cas. En géographie, apparemment, c'est ton cas.
Ouais,
toi.
Ça c'est moi.
Et parfois, on a des difficultés à comprendre la Bible. Et en ce mois de la Bible, justement.
Bah, du coup, il faut la Bible pour les nuls, ça c'est clair.
Eh ben voilà, exactement. CQFD.
Bah, j'espère que vous avez au moins un exemplaire.
Alors. Oui, dans le téléphone.
Bien répondu.
Pourquoi pas, hein.
Bien répondu, Innocent. Et puis aussi, bien sûr, vous, comme tu le disais, Innocent, oui. On a la Bible pour les nuls à l'antenne. Alors, Eric Denimal, vous restez avec nous. Dans quelques instants, on va spécifier ce que c'est que la vulgarisation et puis ensuite rentrer dans le sujet de la vulgarisation de la Bible. Et vous qui écoutez Phare FM, vous qui n'avez jamais rien compris en ouvrant une Bible ou peu compris, eh ben, c'est votre moment pour ouvrir bien grand vos oreilles et puis aussi poser vos questions, Innocent.
Au 0-652-300-342. En attendant de retrouver de nouveau Eric Denimal, on s'écoute Yahir, voici Petit Prince sur Phare FM.
Yahir dans le Positive Morning, Petit Prince à 9h09, matinée spéciale jusqu'à 10h. Eric Denimal, journaliste, conférencier, chroniqueur, radio et auteur de notamment La Bible pour les nuls, est avec nous en duplex pour bien sûr aborder le thème de la vulgarisation de la Bible en ce mois de la Bible, Innocent.
Et oui, Eric, justement, en parlant de la vulgarisation, vous qui êtes vulgarisateur, c'est quoi cette notion? On connaît le mot vulgarisation, mais comment on pourrait définir ce mot?
Alors, si on fait un petit peu d'histoire, vous êtes d'accord qu'on fasse un peu d'histoire?
Allez,
let's go!
Alors, quand il y a fort longtemps, c'est à l'époque de Jérôme, Saint Jérôme, je ne sais plus exactement quel siècle, mais disons à peu près le 6e, il y a peut-être un auditeur qui va vous préciser, mais Jérôme a décidé de traduire la Bible qui était en grec et en hébreu. Il a décidé de la traduire en latin, et parce que le latin était la langue la plus commune en Europe, et pour diffuser la Bible, bien voilà, il fallait utiliser cette langue très connue, le latin, et on disait que c'était la langue vulgaire. En fait, ça voulait dire la langue de tout le monde, la langue populaire, on pourrait dire aujourd'hui. On pourrait aujourd'hui dire que l'anglais, c'est la langue vulgaire. Ça va faire plaisir au nouveau roi Charles. mais voilà. Et donc, cette langue populaire, vulgaire, première Bible traduite en latin, elle s'est appelée la Vulgate, donc la vulgarisation de la parole. Et c'est comme cela que le terme est resté, la vulgarisation, c'est rendre lisible un texte qui peut-être ne l'est pas nécessairement parce qu'on le traduit d'abord dans la langue de tout le monde, la langue qui peut être lue, la langue des premiers lecteurs. Voilà.
Donc on est d'accord qu'il n'y a aucune connotation péjorative dans le mot vulgarisation.
Et non, aujourd'hui, effectivement, le terme vulgaire a changé de sens. Et c'est une des raisons qui montre bien, enfin, c'est une des choses qui montre bien que la langue évolue, que les mots changent. Et c'est la raison pour laquelle il faut régulièrement traduire la Bible, parce que les termes changent, les termes n'ont plus tout à fait le même sens. Et quand on veut transmettre la parole de Dieu, qui est une parole importante, on essaie de la transmettre le plus justement possible. Et s'il y a des variations dans le vocabulaire, eh bien, on adapte, on change et on trouve les mots qui sont adéquats. Si, par exemple, j'aime bien donner cette illustration. Au Moyen-Âge, vous avez un homme qui tombe du rempart depuis le château. Il fait une chute de 15 mètres. Quand il arrive en bas, il est mort, bien sûr, mais on dit « Ah, le pauvre, il est vraiment navré ». Bon, c'est sûr qu'il est navré, le pauvre. il est même en petits morceaux. Mais aujourd'hui, vous voyez, quand on dit « on est navré », ça ne veut pas dire qu'on est tombé de 15 mètres. Voilà. Okay. Donc voilà, ça me permet de dire pourquoi aussi on est obligé sans cesse de traduire et de retraduire la Bible, parce que le vocabulaire change, parce que aujourd'hui, par exemple, on utilise beaucoup moins le passé simple, donc on va, dans les nouvelles traductions, on va peut-être utiliser le passé composé, qui sera plus lisible, encore une fois, pour que le plus grand nombre puisse comprendre, sans être obligé d'avoir fait des études en lettres, ou savoir conjuguer parfaitement l'imparfait du subjonctif.
Et c'est parfaitement clair tout ça. Merci Eric.
C'est la vulgarisation.
Alors, c'est votre domaine, donc forcément. Et on va continuer d'aborder ce sujet de la vulgarisation, puisque vous avez été auteur de nombreux ouvrages, La Bible pour les nuls aux éditions First, mais aussi Jésus-Christ pour les nuls, et Le zapping de la Bible. On va avoir peu de temps, mais on va quand même se plonger dans chacun de ces ouvrages un petit peu, et puis à continuer d'aborder cette question de vulgarisation de la Bible.
Exactement. Et puis si vous, amis auditeurs, auditrices, vous avez des questions justement autour de tout ce que vous entendez ce matin, à 9h avec Éric Denimal, journaliste, conférencier, chroniqueur radio. N'hésitez pas à poser vos questions 0 652 300 342. Allez, on continue avec Ed Sheeran. Voici Celestial sur Phare FM.
En ce dernier jour du mois de la Bible sur Phare FM, on se régale avec Éric Denimal, journaliste, conférencier, chroniqueur radio et auteur de notamment La Bible pour les nuls aux éditions First. Vulgarisation de la Bible, c'est notre thème de ce matin. Et après avoir expliqué qu'est-ce que la vulgarisation, on continue cette belle matinée, Innocent.
Et oui, vous continuez à réagir également au 0652 300 342 si vous comprenez quelque chose ou si vous trouvez simplement que c'est intéressant. Si vous voulez juste nous encourager ou même faire un petit coucou à Eric, n'hésitez pas, 0652 300 342. Eric, on continue donc sur cette thématique de vulgariser la Bible. Alors, quelles sont les raisons? Pourquoi vulgariser la Bible?
Je l'ai signalé tout à l'heure, il est important que les gens puissent comprendre ce qu'ils lisent. Mmh. Sinon, ce n'est pas la peine de le lire, ce n'est même pas la peine de traduire. Ce qui me semble intéressant, si vous voulez, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est le vocabulaire qui est utilisé dans la Bible. Quand, par exemple, l'apôtre Paul parle « Soyez revêtus d'entrailles de miséricorde », on peut se poser la question de savoir « Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce truc ? De quoi il parle ? C'est quoi ces entrailles de miséricorde ?» On se croirait à la boucherie. Donc, c'est pas très facile. Donc, on va adapter le vocabulaire. « Soyez remplis de bienveillance à l'égard de tous », par exemple. Voilà, ça, c'est une vulgarisation, c'est une transformation. Mais le problème aujourd'hui, c'est pas simplement le problème du vocabulaire qui est peut-être vieilli, ancien, avec des formules qui sont désuètes, mais c'est le fait que la Bible fait référence à des notions importantes et que ces notions, on les a peut-être un peu perdues de vue. Aujourd'hui, si l'on parle de la grâce, par exemple, on peut se poser la question de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la grâce matinée? De quoi on parle? C'est quoi la grâce? On parle de temps en temps de la grâce présidentielle, quand ça existait, ou quand ça existe dans certains pays, mais on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. La grâce de Dieu, c'est quand même quelque chose qui a besoin d'être expliqué, donc on va travailler sur la façon de traduire, de transcrire cette notion-là. La notion du sacrifice, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'à faire vivre un sacrifice? Euh, je, je me sacrifie, de quelle façon je me sacrifie, pourquoi je me sacrifie, etc. Mais quand on parle du sacrifice de Jésus, on est à une autre dimension et on a besoin d'expliquer ces notions. Quand on parle de substitution, Jésus-Christ est mort pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut absolument rien dire. Si je dis François Ier est mort pour moi, ça veut rien dire. On m'envoie à Rouffach, on m'envoie dans un hôpital psychiatrique. François Ier n'est pas mort pour moi. Alors pourquoi Jésus serait mort pour moi? C'est quoi la substitution? Il est mort à ma place. Ah bon? Comment c'est possible? Il y a 2000 ans, il est mort et quelqu'un meurt à ma place. Donc voilà, tout cela, c'est le devoir du vulgarisateur qui va devoir expliquer, transcrire, pas simplement du vocabulaire, parce que ça c'est un peu scolaire, mais des notions qui sont des notions clés et qui sont importantes. Sinon, je ne comprends pas ce que je suis en train de lire.
Eh ben, on va profiter pour vous demander à chaque fois qu'on a un verset biblique diffusé sur Phare FM, ben, on envoyez vos questions directement à Eric de Nimal pour vous expliquer, voilà, ce que vous avez écouté.
Pas sûr qu'il y a quoi, d'accord.
J'ai l'impression que ma boîte mail va exploser.
Exactement. Allez, Eric, dans quelques instants, on va faire aussi un petit point sur votre ouvrage, hein, donc la Bible pour les nuls. Préservez simplement vos réponses à cette question-là. Donc voilà, et puis vous continuez à réagir. 0652 300 342. Et puis côté musique, Thomas, on retrouve...
École Pierre, lumière dans le noir, le temps que vous posiez vos questions dans le Positive Morning avec vous jusqu'à 10h. Et puis en duplex avec Eric Denimal, journaliste, conférencier, chroniqueur radio et vulgarisateur biblique.
Phare FM. Phare FM. La radio. Autrement.
École Pierre, lumière dans le noir à 9h26 sur Phare FM. Très content de pouvoir vous retrouver ce matin en duplex avec Eric Denimal pour ce dernier jour du mois de la Bible lancé par l'Alliance Biblique Française. Eric Denimal, donc journaliste, conférencier, chroniqueur radio et auteur de plusieurs ouvrages dont La Bible pour les nuls. Il a été question de l'importance de la vulgarisation, du pourquoi vulgariser la Bible et on poursuit cette matinée. Non.
Et oui, Eric, on vous laisse également présenter votre ouvrage La Bible pour le nul. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cet ouvrage?
Alors la particularité, c'est que malgré le titre, ce n'est pas la Bible, c'est pas une traduction du texte pour les personnes qui auraient du mal à la lire. C'est une espèce plutôt d'encyclopédie. Tout ce que vous avez voulu savoir sur la Bible sans oser le demander, eh bien vous pouvez le trouver dans la Bible pour les nuls. C'est-à-dire que on va présenter le livre, mais ce qu'il contient, mais aussi de quelle façon il a été écrit. Qui l'a écrit? Pourquoi il a été écrit? À partir du moment où on sait que la Bible a été écrite sur un espace-temps de 1500 ans avec une quarantaine d'auteurs différents, il est évident que là, on a toute une histoire à raconter. Comment c'est possible? Un livre collectif avec des gens qui ne se sont peut-être jamais rencontrés et qui s'étale sur 1500 ans de rédaction, c'est quand même très original. Donc, raconter un petit peu tout cela, à quelle époque tel livre de la Bible, puisque la Bible est composée de 66 livres au moins, c'est plus qu'un livre, c'est une bibliothèque. Expliquer, ça commence avec la Genèse, ça finit par l'Apocalypse. Ok, d'accord, mais entre le premier livre et le dernier livre, il s'est passé du temps. Les auteurs ne sont naturellement pas les mêmes, on ne raconte pas les mêmes choses. Le premier livre raconte le début, le commencement, la création. Le dernier se termine avec peut-être une explosion cosmique hallucinante. Donc, c'est quoi tout ça? Qui sont les auteurs? 40 auteurs différents? De quelle époque? Pourquoi ils ont écrit? Quel est le style d'écriture? Parce que chacun a son style d'écriture. Et puis parce que dans la Bible, il y a différents textes, il y a des textes qui racontent l'histoire d'un pays, il y a des textes qui sont des textes méditatifs, ce sont les psaumes par exemple, il y a des dictionnaires de citations, si j'ose dire, c'est le livre des proverbes, vous avez naturellement des biographies, Jésus, les évangiles, ce sont des biographies, vous avez des lettres, c'est de la correspondance, des épîtres, les épîtres ça veut dire lettres, donc il y a toutes sortes de choses là-dedans, dans cette Bible, c'est quoi, comment, pourquoi, etc. Et donc, expliquer un petit peu tout cela et quel est le sens de tout cela. Et est-ce qu'il y a un fil conducteur? Eh bien oui, il y a plusieurs fils conducteurs qui sont là nécessairement à expliquer, à montrer, à démontrer peut-être si c'est nécessaire. Enfin voilà, c'est ça en fait la Bible pour les nuls, c'est j'ai un texte, Alors, je vais naturellement avoir une explication du texte, je vais avoir un résumé du texte biblique, mais je vais aussi avoir ce qu'il y a avant le texte, ce qu'il y a après le texte, ce qu'il y a avant Jésus, ce qu'il y a après Jésus, enfin, toutes sortes, par exemple. Voilà, c'est un petit peu tout cela, et tout ça fait que, finalement, présenter le texte biblique, présenter la Bible, sans que l'on soit obligé d'y croire. Ça aussi, c'est une chose importante, parce que le texte biblique ne doit pas être confisqué par ceux qui croient, étant donné que ce texte, cette Bible, a une valeur beaucoup plus grande. Elle dépasse simplement la satisfaction que l'on peut avoir au niveau spirituel, parce que, par exemple, quand la Bible dit « tu ne tueras pas », on n'a pas besoin d'être croyant pour comprendre que quelque part, il vaut mieux ne pas tuer. Qu'est-ce que vous en pensez, innocent ? Parce qu'avec un nom comme ça.
je suis tout à fait d'accord.
Alors, rapidement, vous avez aussi écrit la Bible pour les nullissimes. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de la nuance entre les deux ouvrages ?
Alors, c'est la maison d'édition qui a surfé sur cela, parce qu'on s'est rendu compte que la Bible pour les nuls, eh bien, il fallait quand même avoir un certain degré de connaissance, de capacité de lecture pour entrer dans un livre comme celui-là, parce que c'est un livre pédagogique, c'est un livre vulgarisateur, mais parfois, malgré tout, bien le public a du mal à s'y retrouver parce que c'est un petit peu compliqué. Et du coup, la maison pour les nuls, enfin la maison d'édition qui fait la collection pour les nuls, s'est lancée dans plus nul que nul, quoi. Plus nul que nul, tu meurs. et d'ailleurs, la collection a très mal marché et je crois qu'elle n'existe plus. Donc, la Bible pour les nullissimes, c'est un collector aujourd'hui.
Une question peut-être subsidiaire, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, on peut aborder le sujet un peu plus tard, si vous pensez que la réponse va être un peu longue, parce que en fait, c'est les auditeurs qui posent cette question, hein, parce que il y a tout type de profils justement qui écoutent Phare FM, ceux qui ont la foi en Dieu, ceux qui ne l'ont pas encore. La question serait, certains pensent que la Bible est falsifiée. Comment pouvez-vous répondre à cette question ? Je pense que si la réponse est longue, on peut aborder le sujet juste après la musique. Qu'en pensez-vous, Eric ?
Alors, je pense qu'il faut en parler un petit peu après. Moi, je viens de faire un week-end et j'ai répondu à cette question dans deux conférences qui duraient chacune 2 heures.
Ben voilà, nickel. Ben du coup, gardez votre réponse pour dans quelques instants, le temps de déguster Louis Capaldi avec Forget Me. Et vous continuez de poser vos questions, chères auditrices, chers auditeurs, à Eric Denimal, journaliste, conférencier, chroniqueur radio et auteur de notamment La Bible pour les nuls. Posez toutes vos questions au 0652 300 342.
En attendant, on s'écoute Louis Capaldi, voici Forget Me sur Phare FM.
Il est 9h34, bienvenue sur Phare FM, vous nous rejoignez. Et bien, ça tombe bien, c'est le bon moment. Puisque jusqu'à 10h, Eric Denimal est avec nous. Plusieurs casquettes pour ce journaliste, conférencier, chroniqueur, radio et auteur de notamment La Bible pour les nuls avec nous en duplex depuis Valence en France. Jusqu'à 10h, Eric Denimal, on est encore ravis de pouvoir vous avoir avec nous.
Eric, vous êtes très attendu pour répondre à cette question. Pour ceux qui pensent que la Bible serait falsifiée, qu'avez-vous à répondre à cela ?
Alors d'abord, il y a un présupposé, c'est de dénigrer, de ne pas donner du crédit au texte biblique, donc on va chercher toutes sortes d'arguments. Alors c'est vrai aussi que nous n'avons pas de texte original, mais on n'a aucun texte original de la littérature ancienne. La guerre des Gaules de Jules César, par exemple, nous avons 8 exemplaires qui datent de l'an 900 après Jésus-Christ, et c'est le texte le plus ancien, celui sur lequel on ne pose pas de questions. Donc, on n'a pas d'original, c'est évident. Tout le problème vient de la transcription. Est-ce que l'on peut croire un seul instant que les copistes ont été rigoureux ? À partir du moment où on sait, par exemple, que chaque livre de l'Ancien Testament qui était écrit en hébreu a été copié, recopié, et sans cesse recopié, etc., mais que les copistes ne s'amusaient pas simplement à les copier, mais ils comptaient le nombre de lettres qu'ils utilisaient, et que pour un même livre biblique, par exemple la Genèse, ils savaient exactement combien il y avait le B, combien il y avait de C, combien il y avait de D, combien en hébreu, naturellement, et que quand on avait terminé la copie, on vérifiait si le nombre de lettres correspondait bien à ce qui était normalement que l'on devait trouver. Et si jamais il y a un problème quelque part, s'il manque une lettre, quelle que soit la lettre, on ne cherche pas à corriger, on détruit le texte et on recommence. Donc ça, par exemple, c'est une chose qui est quand même assez incroyable au niveau du travail fastidieux. Ensuite, s'il y a des copies qui ne sont pas fidèles, où il y a des transformations, à partir du moment où on fait des copies de copies de copies de copies, mais de copies de toutes sortes, on devrait avoir des textes qui sont différents d'un côté comme de l'autre. Et finalement, on n'arrive pas à avoir de textes différents. Quand on a fait la découverte des manuscrits de la Mer Morte, on a retrouvé des archives qui étaient beaucoup plus anciennes que tous les anciens manuscrits que l'on pouvait posséder. Parfois, on faisait un recul jusqu'à 1000 ans en arrière. Et donc, on a comparé naturellement ces manuscrits trouvés et les plus récents manuscrits que l'on possédait déjà. Et il y a quasiment pas de variante. C'est-à-dire que de temps en temps, effectivement, il y a peut-être une erreur, une lettre, un mot, mais rien qui ne change le sens. Donc, il n'y a pas de falsification du texte biblique. Il y a peut-être eu de temps en temps dans l'histoire des traductions qui ont été orientées, ça on le reconnaît, mais aujourd'hui on peut être quasi sûr à 99,9% que le texte que nous lisons, c'est celui qui a été écrit.
De la rigueur, de la traçabilité, de la cohérence donc. Voilà pour cette réponse au sujet de la Bible et de la véracité des faits. Alors, on va bien sûr continuer jusqu'à 10h d'aborder le sujet. Chers auditrices, chers auditeurs, posez vos questions à Eric Denimal, journaliste, conférencier, chroniqueur radio et auteur de la Bible pour les nuls, au 0 652 300 342.
On va retrouver Love Lifting Me de Tasha Layton dans quelques instants sur Phare FM. Tasha Layton avec Love Lifting Me sur Phare FM, ça parle d'amour, un thème que nous apprécions, que nous chérissions même sur Phare FM.
Tu t'aimes bien utiliser des mots compliqués.
Je sais pas si ça se dit.
Chérissons, ouais, si, il me semble.
Allez, vous êtes sur Phare FM, il est 9h42, nous sommes avec Eric Denimal, journaliste, conférencier, chroniqueur, radio, rien que pour vous, il est vulgarisateur également de la Bible, et puis vous continuez à poser vos questions par rapport à ce que vous entendez, ou si vous avez d'autres questions autour de la Bible ou de ces ouvrages, n'hésitez surtout pas, 0 652 300 342.
On rappelle donc que le mois de la Bible, c'est jusqu'à aujourd'hui. Ah, et oui, dans le magazine du mois de la Bible, Eric, vous avez écrit un petit article au sujet donc de la Bible, qui est en fait pas vraiment un livre, mais plutôt une compile qui relie plusieurs ouvrages, hein, si j'utilise vos mots, en lisant ce magazine-là. C'est sans doute pour cela que vous avez écrit cet autre ouvrage qui s'appelle Le Zapping de la Bible. Avec cette question-là pour vous, déjà, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet ouvrage-là? Et est-ce que c'est parce que vous avez ciblé un besoin particulier chez vos contemporains que vous avez choisi de d'écrire cela?
Alors, merci pour cette question, je vous remercie de l'avoir posée, elle est intéressante. Cela dit, tout est lié à l'histoire. La Bible pour les nuls, par exemple, a un énorme succès, un succès qui a surpris même l'éditeur, hein, puisque il savait que le sujet pouvait être intéressant, mais il ne pensait pas qu'il y aurait un tel engouement pour ce bouquin. Et du coup, quand les éditions Larousse viennent vous voir et vous disent « Nous aussi, on aimerait bien avoir un bouquin sur la Bible, est-ce que vous êtes d'accord pour l'écrire ?» Il est évident que là, je ne fais pas la coquette et je remercie, je dis « Oui, bien sûr, il n'y a pas de raison. » Après, les éditions Larousse ont une collection qui s'appelle le Zapping 2 quelque chose, et donc il faut entrer dans la collection. Et l'éditeur réfléchit en disant « Il y a aussi aujourd'hui une écriture qui est différente, c'est une écriture journalistique, c'est une écriture qui va vite, qui dit rapidement de l'information, qui doit être succincte, etc. Et parce que les lecteurs, les auditeurs sont des gens qui sont ou pressés ou qui ont besoin d'avoir une information rapide, ou qui ont des seuils de tolérance, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'avoir une attention trop longue. Donc, on va dans le court, dans le texte réduit, dans le texte qui est vraiment très court. D'ailleurs, on est à la radio, tout est calibré aussi, chaque intervention. Voilà, il ne faut pas déborder. Vous avez un verset biblique par jour sur l'antenne, vous n'allez pas lire un chapitre complet, parce que vous savez très bien que les auditeurs vont se lasser, vont s'endormir, vont partir ailleurs. Ils vont écouter France Info, pardon pour France Info, mais là, l'information, elle est instantanée, elle est répétée. Donc, si jamais vous avez loupé la première fois, bah, vous avez la possibilité de réécouter, et au bout d'une heure vous récitez avec le journaliste. Voilà, on est dans cette rapidité, précipité, etc. Le zapping pour la Bible, c'est on prend un sujet sur une double page et on va éclater l'information en 7 ou 8 petits encadrés, telle piste, telle autre piste, tel point, tel autre point, ce qui fait que l'on peut ouvrir le livre à n'importe quel endroit, on peut avoir une succession d'informations qui sont lues rapidement, qui sont naturellement précises, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des textes courts, il faut qu'ils soient précis, et ça c'est le journaliste qui doit écrire, mais avec une connaissance de théologie. Hein.
Qui aurait rédigé l'Ancien Testament? Qui sont les 12 disciples de Jésus? Qui était Marie-Madeleine? Autant de questions. Vous trouverez des réponses dans cet ouvrage. 320 pages pour le zapping de la Bible aux éditions Larousse. Ça, c'est une belle idée de cadeau innocent. Moi, je me le note de côté. Hein, même si.
Tu veux dire que tu veux me l'offrir, c'est ça?
Non.
Mais non, mais tu me l'offres, puis non, moi je vais aller voir Eric, comme ça il va me dédicacer justement
bon.
Ça.
Ouais. Ouais, ça aura du chemin jusqu'à Valence, innocent.
Allez, dans quelques instants, l'héritage Goldman côté musique, et puis vous continuez à réagir hein, au 0652 si vous avez des questions à poser à Eric de Nimal. Il est là pour vous, il est là encore pour 13 minutes qui nous restent. Allez, la suite, donc vous l'avez compris, hein, Eric est toujours là avec nous, mais on retrouve également la musique sur Phare FM. Belle journée, bon vendredi, je vois que le soleil commence à apparaître à l'extérieur après la pluie, comme on dit, hein, le beau temps. Et le beau temps, c'est aussi sur Phare FM. Encore un matin, et oui, c'est un nouveau matin, ce matin,
31 mars,
dernier jour, un jour, une journée qu'on ne retrouvera plus finalement.
Non, édition 2023 du mois de la Bible qui prend fin aujourd'hui avec l'Alliance Biblique Française.
Alors profitons à fond de cette journée, simplement sur FAFM, vous êtes les bienvenus, bientôt 10h.
Avec Eric de Nimal, vulgarisateur de la Bible entre autres, avec nous donc pendant encore 8 belles minutes. Eric, vous avez dit il y a un instant que Larousse vous a approché en vous demandant d'écrire en tant que journaliste cet ouvrage-là, le zapping de la Bible, mais en espérant que vous ayez cette approche et cette précision d'un théologien. Alors parlez-nous un peu de ce ton-là que vous avez utilisé et ce qui était recherché dans l'écriture.
Alors, je suis journaliste, je suis aussi théologien puisque j'ai fait des études en théologie. Donc, j'ai une formation et j'ai une connaissance en quelque sorte. J'ai accumulé un certain nombre d'informations. Lorsque j'écris un livre, le Zapping pour la Bible, mais aussi la Bible pour les nuls, Jésus pour les nuls et compagnie, j'écris pour un public qui n'est pas nécessairement chrétien. C'est un public qui n'a pas besoin non plus de se sentir obligé de croire tout ce que je vais écrire. C'est quelqu'un qui va s'informer. Les collections dont on parle, le Zapping pour les nuls, etc., ce sont des éditions pédagogiques. Ce sont des éditions qui sont là pour apporter une information. Je dois apporter la justesse de l'information, et ça c'est le théologien, mais je ne dois pas apporter mon opinion, et ça c'est le journaliste. Je suis chrétien, c'est vrai, mais je ne vais jamais dire dans des ouvrages comme cela que la Bible est la parole de Dieu. Je vais dire, par exemple, pour un certain nombre de personnes, la Bible est la parole de Dieu. Voyez la petite nuance, mais qui est très importante. Je ne fais pas un travail d'évangélisateur, je ne fais pas du prosélytisme, je ne cherche pas à chercher des adhérents, je cherche à apporter une information pour que les personnes puissent comprendre ce que c'est que la Bible. Si je raconte, par exemple, l'histoire du Brésil, je ne vais pas obliger les gens à devenir brésiliens. Je vais juste apporter une information qui va dire bah, le Brésil, c'est tel pays, tel sous-sol, telle forêt et tel président, éventuellement. Mais voilà, ça c'est une différence très importante et c'est une des raisons, me semble-t-il, pour laquelle le livre a eu beaucoup de succès. C'est-à-dire que les gens qui ont lu cela n'ont pas eu le sentiment qu'ils étaient conduits, embrigadés, comme à la limite ils pourraient l'être dans avec un ouvrage publié dans une maison d'édition confessionnelle qui a intérêt à chercher des adhérents, que ce soit au niveau religieux ou politique, qu'importe. Mais voilà, ça c'est une chose très importante. Et je dois respecter ce contrat. Je suis journaliste, je reste extérieur. En quelque sorte, je présente sans dire quel est mon degré de compréhension ou mon degré de crédibilité que j'accorde à ce texte.
Pas de prosélytisme donc, et puis ce désir aussi de rendre ces informations-là accessibles à tout un chacun, ce qui en fait un livre qu'on peut partager sans doute à un collègue qui ne croit pas en Dieu ou à un membre de la famille. Est-ce que vous pensez que, même si ce n'était pas le but à la base, cet ouvrage peut être un tremplin ou en tout cas le premier pas vers un cheminement au niveau de la foi?
Alors évidemment quelque part c'est un petit peu quand même ce que j'espère. C'est comme quand on aime un film et qu'on encourage les gens à découvrir ce film, on espère que finalement les gens iront au cinéma pour le voir. Donc quelque part si on peut encourager les gens à faire un pas, mais je ne peux pas faire les pas à leur place. Donc je vais donner les moyens, les bonnes chaussures en quelque sorte pour commencer la marche, mais après c'est à eux de décider comment ils vont marcher. Donc voilà, ça c'est très important. Et mais le livre La Bible pour les nuls, ou même le Zapping pour les nuls, ont été reçus très positivement par des gens qui connaissaient déjà le texte biblique, mais qui finalement manquaient d'informations parce qu'il y a là des informations qu'on ne trouve pas nécessairement facilement dans les associations cultuelles et autres. Donc il y a un public qui est le public non chrétien en quelque sorte, qui est parallèle, périphérique, qui doit être intéressé parce qu'il va apprendre des choses. Et puis, il y a un public chrétien qui doit être encouragé et édifié en ayant aussi des informations nouvelles pour son propre plaisir.
Le temps nous manque pour jeter un petit coup d'œil sur cet autre ouvrage, hein, donc Jésus pour les nuls. Hein, mais on rappelle simplement que cette collection de livres, notamment La Bible pour les nuls, le Zapping de la Bible, sont à retrouver aux éditions First. Un mot de la fin peut-être, Eric?
Je dirais que l'on soit croyant ou pas croyant, ça vaut la peine quand même de faire un petit tour dans la Bible, de découvrir un petit peu. Mais c'est un livre extrêmement compliqué, c'est-à-dire que c'est pas un roman, c'est pas Harry Potter. On commence pas à la première page et pour terminer à la dernière. C'est un livre, me semble-t-il, qui vaut la peine d'être découvert, redécouvert. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des traductions qui sont faites par des spécialistes qui vont travailler sur la lisibilité du texte. Il y a la Bible, on parlait tout à l'heure de l'Alliance biblique qui a parrainé ce mois de la Bible. Mais cette maison d'édition, c'est aussi une maison qui traduit le texte biblique. Et il y a une nouvelle traduction qui est la Bible en français courant, la nouvelle traduction en français courant. Et moi, je ne peux qu'encourager les gens à découvrir ce texte et puis commencer peut-être par lire les évangiles. Et puis moi, j'aime bien aussi, c'est un petit conseil que je donne, encourager les gens à aller lire un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle l'Ecclésiaste. Et quand on lit l'Ecclésiaste, on a vraiment l'impression qu'on lit l'Express, le Nouvel Obs, parce que c'est tellement actuel que ça vaut la peine. Et en plus, alors qu'on est dans un monde un peu insensé, ce sont des textes qui, eux, donnent du sens.
Plus qu'une minute avant de retrouver Lisa qui prend le relais à partir de 10h. Merci beaucoup Eric, c'était juste magnifique.
Vous êtes journaliste, conférencier, chroniqueur radio, vulgarisateur et auteur de La Bible pour les nuls. Retrouvez tous les ouvrages d'Eric Denimal sur internet ou dans vos librairies religieuses. Encore un grand merci et on vous souhaite une belle journée du côté de Valence, Eric Denimal.
Merci beaucoup.
À la prochaine. Et en ce qui nous concerne, bah, comme tu l'as dit, Innocent, c'est Lisa qui va prendre le relais jusqu'à midi. Ensuite, de midi à 14h, vous retrouverez bien sûr notre cher Tim. Et on le rappelle, avec toute cette semaine, un plein phare sur la ville de Troyes. Il sera question, Innocent,
oui,
de prunelles de Troyes, à consommer bien sûr avec modération, et aussi du caveau des Rissets à Troyes. Donc c'est l'occasion de faire un petit tour côté tourisme en radio avec Tim de midi à 14h.
Encore une fois, bienvenue aux Troyennes et Troyens qui écoutez Phare FM en DAB+. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous demain.
À lundi, puisque demain, c'est le week-end.
Oui, c'est vrai.
À lundi, allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.